Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent sur le net. Dieu vous bénisse. Nous sommes tous contents de vous accueillir, n'est-ce pas vrai?
Oui!
Voilà, oulala, quel drôle de secte. Pour ceux qui viennent pour la première fois, rassurez-vous, simplement, on est des gens normaux, on s'aime les uns les autres, et puis on ne va pas faire la tête, une tête épouvantable, sous prétexte qu'on est dans une chapelle, on est heureux. Jésus nous a sauvés, il nous a pardonnés, il a guéri plusieurs d'entre nous, on est contents, on vit une belle vie, on a des soucis, mais on a aussi les solutions à nos problèmes, et on se réjouit parce que bientôt il revient nous chercher. Amen. C'est vrai, hein, c'est bien. Hier soir, on était allé à un concert, Simone m'a offert une soirée, un concert de piano, c'était magnifique. On a entendu du Jean-Sébastien Bach, on a entendu du Robert Chopin, c'est ça, Frédéric? C'est pas Robert? Vous êtes sûr que c'est pas Frédéric Chopin? Et puis alors voilà, c'était magnifique, magnifique. Et voilà, je pensais après en sortant, je regardais cet homme magnifique, avec un talent fou, avec une facilité de s'exprimer, il parlait de son piano, des auteurs, il avait beaucoup de sensibilité. Et puis j'ai pu dire deux, trois mots, et puis il a mis un petit mot sur le disque que j'ai acheté, il nous a parlé. Après j'ai vu qu'il était entouré d'un tas de grands-pères et de grands-mères comme moi. Et oui, je t'ai pris en photo, Simone, avec lui. Et oui, c'était ça, je te la donnerais. Et, il faudrait être sage, hein. Puis je me disais, ouais, mais lui maintenant, qu'est-ce qu'il fait là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va penser à l'inviter pour aller manger quelque chose, ou est-ce qu'il va rentrer tout seul dans son hôtel? Beaucoup d'artistes, c'est comme ça. Ils vivent quelque chose de très fort, puis après, ils rentrent tout seuls dans leur hôtel, c'est affreux. Et nous, on ne connaît pas ça. Nous, on est là, et dans la maison de Dieu, on se réjouit, on écoute la parole de Dieu, on chante, puis après on rentre, et puis on mange ensemble, et puis on dort dans le même château, et puis on continue à vivre, et puis c'est bien. Moi, je trouve que c'est bien, non? On est content. Moi, je trouve que c'est la plus belle vie qu'on a choisie. Les gens me disent, mais comment vous faites pour vivre en communauté? Je dis, comment vous faites pour ne pas vivre en communauté? Je ne sais pas, c'est comme ça. Ce soir, je voudrais partager avec vous une chose qui me semble étrange. Je ne dis pas que c'est une révélation. J'ai piqué à gauche, à droite, des idées, des pensées. J'ai lu, je n'ai pas la science infuse. C'est Frédéric qui a dit la science infuse parfois, mais pas Robert. Robert aussi des fois, mais enfin là, je ne l'ai pas moi. Donc je puise à gauche, à droite, et puis il me vient des idées. Je ne dis pas que c'est une révélation. Cependant, il y a quelque chose qui me frappe là dans ce que je vais vous dire, et je voudrais qu'on fasse une étude ensemble, puis après on en parlera, et puis ceux qui écoutent sur Internet, si vous voulez nous écrire, des choses gentilles, hein, ben vous pouvez. Vous savez qu'il y a sept âges pour l'Église. Déjà, nous, ici, nous le savons. Il y a sept âges pour l'Église des nations. L'Église a commencé lorsque Jésus a répandu son esprit le jour de la Pentecôte à Jérusalem. Mais ça, c'était l'Église parfaite, impeccable, selon la volonté de Dieu. Ils avaient la plénitude du Saint-Esprit, les véritables enseignements des apôtres, ils vivaient conformément à la volonté de Dieu, c'est-à-dire en communauté, etc., etc. Donc c'était parfait. Puis après, Dieu a toléré, à cause de la dureté du cœur, à cause de toutes sortes de choses, de problèmes, de machins, qu'il y ait dans les nations des différences, et puis l'Église est devenue ce qu'elle est devenue. Et il y a sept périodes, donc, pour les nations. Et puis nous savons que il y a sept sceaux qui ferment sept livres. On trouve ça dans l'Apocalypse, et les sceaux s'ouvrent les uns après les autres, et on découvre, Dieu nous révèle les choses qui se passent petit à petit, et nous savons qu'aujourd'hui, nous sommes en train de vivre ce qui est écrit dans le livre qui est fermé par le quatrième sceau de l'Apocalypse. On le sait, donc ça fait sept âges, ensuite ça fait sept sceaux. Et nous savons donc ces choses-là, nous les avons apprises grâce à Dieu. Je voudrais qu'on lise 1 Pierre 1, 10 à 12. 1 belle photo de Priscille là dans ma Bible, que Dieu la bénisse là où elle est. Je ne sais pas si elle peut écouter Internet, j'en sais rien. 1 Pierre. Alors, où est-ce qu'il est Pierre? Il s'est caché aujourd'hui. 1 Pierre, c'est qu'il y a tellement de photos dans ma Bible que ça devient un album. 1 Pierre 1, 10, 12. Les prophètes qui ont prophétisé au sujet de la grâce qui vous étaient destinés, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. J'aime ça. Ils se sont appliqués à découvrir à quelle époque et à quelles circonstances se rapportaient les indications de l'Esprit de Christ qui était en eux et qui d'avance attestaient les souffrances de Christ et la gloire qui s'en suivrait. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qui êtes ministres de ces choses. Maintenant, elles vous ont été annoncées par ceux qui vous ont prêché l'Évangile, par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et les anges désirent y plonger leur regard. Voilà, on peut s'asseoir. Les prophètes qui ont prophétisé ont fait du salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont étudié, ils ont cherché à comprendre. Ça ne leur est pas venu comme ça. Ils n'ont pas entendu une grosse voix qui leur parlait. De temps en temps, ça peut arriver, des songes, des choses. Mais aussi l'étude, les investigations. Dieu révèle des choses saintes et nous ne pouvons pas sonder ce qui est insondable. Il y a des choses, Dieu a fermé, on ne peut pas, c'est encore scellé. Mais je dis que nous sommes invités à chercher, à faire des investigations. Il ne faut pas dire, voilà, maintenant c'est tout, Dieu n'a plus rien à dire, il ne veut plus rien révéler, c'est fini. Aussitôt qu'on dit ça, on crée une nouvelle dénomination religieuse avec des dogmes et on dit, on finit par dire, il n'y a que nous qui possédons la vérité. C'est comme ça, c'est historique, vous pouvez regarder dans toute l'histoire de l'Église, c'est comme ça que ça se passe. Nous sommes ouverts et on cherche toujours à comprendre. Alors ce que je vous dis ce soir, n'allez pas prendre ça au pied de la lettre et en faire une doctrine. Je ne suis pas un homme de doctrine. Je vous apporte des pensées que je reçois du Seigneur quand je lis la Bible et il y a des fois des choses qui sont de moi. Je peux me tromper aussi. Mais là, je ne crois pas me tromper. Et vous allez voir, c'est excitant, c'est formidable. J'ai déjà parlé un petit peu avec Marc, il est un peu au courant. Dans Matthieu 24, 36, un jour Jésus a dit « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Avec ce verset, on a construit la doctrine de la Trinité, et c'est tout ce qu'ils ont trouvé à dire avec ça. Jésus est en train de dire que le jour où il reviendra pour chercher son épouse, on ne sait pas ni le jour ni l'heure. Et c'est très bien, parce que comme ça, on est toujours obligé d'être prêt. C'est une bonne chose. Alors, gardez cette parole dans votre pensée, dans votre cœur. On va revenir tout à l'heure dessus. On va avoir autre chose qui semble ne pas avoir beaucoup de correspondance avec ce qu'on vient de lire, mais vous allez voir, ça se rejoint. Vous savez que Dieu a donné à son peuple juif, à Israël, 7 fêtes principales, importantes. La première, la plus connue, c'est Noël. C'est ça ? Non. Non, bien sûr que non. Il n'a même pas donné ça aux chrétiens, c'est eux qui l'ont inventé. Hein. Non, c'est la Pâque. La Pâque. Alors, on peut faire toute une prédication sur le jour de la Pâque, mais ce n'est pas là mon but. Le jour de cette fête, le jour de la Pâque, Jésus est mort. Savez-vous que Jésus est mort là, ce jour-là ? Et c'était le premier mois, mais c'était le 14e jour du premier mois. Bon. Il y a 6 autres fêtes qui sont toutes décrites dans Lévitique 23. Vous allez à vos bibles, vous regarderez ça chez vous dans vos chambres, ou entre vous, comme vous voulez. Et après la Pâque, il y a une autre fête qui s'appelle la fête des pains sans levain. Et cette fête correspond à un événement très important, c'est l'ensevelissement de Jésus. Jésus a été enseveli le jour de la fête des pains sans levain. Saviez-vous ça ? En effet, c'est le jour de la fête des pains sans levain que Jésus a été enseveli le premier mois et le 15e jour de ce mois. Ensuite, il y a eu la troisième fête. La troisième fête qui doit avoir lieu, d'après toujours Lévitique 23, elle doit avoir lieu le premier jour de la semaine suivant le sabbat de Pâques. Et cette fête, la fête, ça s'appelle la fête des prémices, correspond au jour où Jésus est ressuscité. Jésus donc est mort à Pâques, à la fête de Pâques. Je vous rappelle qu'il y avait eu cette année-là un double sabbat, qu'il a été enseveli à la fête des pains sans levain et qu'il est ressuscité à la fête des prémices. Mais ce n'est pas tout. 50 jours après, il y a une autre fête qu'on appelle la fête de la Pentecôte. 50 jours après, quatrième fête, celle de la Pentecôte. Or, c'est ce jour-là que Jésus a fait les dons à l'Église. Il a donné l'Esprit Saint avec tout ce que cela comporte, les dons de l'Esprit, ces choses-là. Voilà pour les quatre fêtes de printemps. Maintenant, il y a trois fêtes d'automne. Le premier jour du septième mois, il y a la fête des trompettes, ou Rosh Hashanah, pour les juifs qui sont parmi nous, qui connaissent, ou le nouvel an juif. Vous savez qu'ils fêtent nouvel an en même temps que nous, parce qu'ils aiment bien la fête, mais leur nouvel an à eux, c'est pas le 1er janvier, c'est le jour de Rosh Hashanah, c'est-à-dire la fête des trompettes. Ensuite, il y a la fête de l'expiation, dont on entend parler très souvent, la fête du Yom Kippour, c'est-à-dire du pardon. Et ça, c'est le 10e jour du 7e mois. Et puis, il y a la 7e fête, la fête des tabernacles, le 15e jour du 7e mois. Ces fêtes, elles étaient ordonnées par Dieu, elles devaient être faites à des dates précises, le 10e jour du 7e mois, etc., etc., le 3e, etc. Bon. Ces fêtes étaient ordonnées par Dieu. Et si on regarde les quatre fêtes, les premières fêtes de printemps, on voit qu'elles ont été des symboles. Symbole de la mort, de l'ensevelissement, de la résurrection et des dons, du don de l'Esprit Saint, de la création de l'Église. Très grands événements. Se pourrait-il que les trois autres fêtes correspondent à la suite de l'histoire marquée par Dieu ? Je ne dis pas que c'est une révélation, je répète, c'est une étude, c'est juste une étude, et je ne suis pas tout seul à penser ça, d'autres, il y a des écrits là-dessus. Pourrions-nous associer la prochaine fête à l'enlèvement de l'épouse ? Vous savez que Jésus a dit qu'il reviendrait, d'abord une première fois, sans poser les pieds sur la terre, dans les nuées du ciel, il enlèverait les siens, son épouse. Et qu'il y aurait 7 ans de grande tribulation sur la terre, et puis ensuite il reviendrait, et tout œil le verra, tout genou fléchira, il régnera. Est-ce qu'on pourrait associer la prochaine fête à l'enlèvement de l'épouse ? Les Juifs appellent le Rosh Hashanah aussi le Yom Teruah. Ils l'appellent comme ça, ce qui signifie jour du son qui réveille. Et ça me fait terriblement penser à 1 Thessaloniciens 4.16. Vous vous rappelez 1 Thessaloniciens 4.16 ? Bien sûr. On a tellement entendu parler. 1 Thessaloniciens 4.16. Je vous le relis quand même. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne seraient peut-être pas au courant. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Donc il y a une trompette. La trompette de Dieu. Ce texte de Paul est rempli de choses que seuls les juifs et autres initiés, en tout cas les juifs de l'époque, pouvaient comprendre. Pourquoi ? De nos jours, les églises se sont tellement éloignées des choses sacrées juives qu'elles se trouvent dans la confusion pour beaucoup de choses, dans beaucoup de domaines. Alors on va observer les coutumes juives de l'époque, quelques coutumes juives de l'époque. Bon, nous savons que l'enlèvement de l'épouse signifie pour nous les noces de l'agneau. Jésus nous enlève, ce n'est pas pour nous emmener voir le dernier Rocky. Il nous enlève pour les noces de l'agneau, d'accord ? C'est pour les noces, c'est pour un mariage. Il s'est choisi une épouse tout au long des siècles et il y aura des noces. Bon, alors, voyons un peu comment un mariage à cette époque se faisait. Bien, premièrement, on va voir si ça correspond, par exemple, avec les noces de l'agneau, avec les noces de Jésus avec son épouse. Premièrement, la fiancée, elle montrait à son fiancé qu'elle acceptait de se marier avec lui en buvant une coupe que le fiancé lui tendait. Et cette coupe, Jésus nous l'a tendue. Et nous sommes fiancés à lui, c'est une coupe de la nouvelle alliance. Jésus nous a tendu cette coupe de vin pour le rachat, donc de sa fiancée, pour qu'elle lui appartienne. Le fiancé ensuite offrait des cadeaux à sa fiancée. Après la coupe que le Seigneur nous a donnée, eh bien, 50 jours après, donc, la descente du Saint-Esprit avec les cadeaux, les 9 dons de l'Esprit, les cadeaux à la fiancée. Parler en langue, prophétie, guérison, miracle, discernement, toutes ces choses. Ensuite, la fiancée juive allait, le fiancé juif allait préparer une maison pour y vivre avec son épouse après le mariage. Il était seulement fiancé, il allait préparer une maison pour ça. La Bible nous dit que Jésus est parti, il nous a dit pour vous préparer une place pour vous emmener avec moi et là où je serai, vous serez aussi. Le fiancé ensuite venait chercher sa fiancée au milieu de la nuit, accompagné d'une foule d'amis, de membres de la famille, et hop, il enlevait. Jésus reviendra avec ses saints anges et hop, il va nous enlever. C'était un enlèvement. Il venait chercher sa fiancée, là, hop, un enlèvement, un peu comme chez les gitans aujourd'hui. Et il sonnait du chauffard. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un chauffard, à part un homme qui roule n'importe comment sur la route, un chauffard, c'est une espèce de trompette faite avec une corne. En quelque sorte, c'est un peu ça, là. Les Juifs l'utilisent toujours aujourd'hui. Car le Seigneur lui-même, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et nous, les vivants, nous partirons à sa rencontre. Pas étonnant, ça? Après le mariage, l'époux et l'épouse devaient passer, toujours selon la tradition juive, 7 jours ensemble pour consommer leur union dans la chambre nuptiale. Il n'y avait personne, oui, juste quelqu'un qui leur apportait peut-être quelque chose à manger, mais ils étaient tous les deux 7 jours ensemble. Maintenant, la Bible nous dit que le Seigneur et son épouse vont passer 7 ans ensemble pour consommer leur union et que pendant ce temps-là, sur la terre, ça va être la catastrophe, ce que la Bible appelle la grande tribulation. 7-7. Quand les 7 ans seront terminés, nous reviendrons avec notre époux sur la terre pour célébrer avec lui le Yom Kippour. Le Yom Kippour, c'est-à-dire le grand pardon. Et ensuite, la fête des tabernacles. On va voir ça. C'est à ce moment-là que ces deux fêtes trouveront l'accomplissement prophétique, leur signification, leur profondeur prophétique. Je crois que tout est planifié par Dieu. Je crois à la prédestination. Je crois que tout est arrangé par Dieu. Je crois que les choses ne doivent pas arriver n'importe comment. Je ne peux pas croire que Dieu dise « Ah ben tiens, maintenant j'en ai marre, je vais vite aller chercher mon épouse. Je ne sais pas quoi faire d'autre, là j'ai un moment, je vais y aller. » Non. C'est planifié, c'est arrangé, c'est Dieu le sait. Ceux qui n'auront pas entendu le cri de rassemblement dont 1 Thessaloniciens 4:16 nous parle, ou la voix de l'archange, ceux qui n'auront pas entendu le cri de rassemblement, qui ne seront pas rassemblés, ceux qui n'auront pas écouté la voix de l'archange qui porte ce message, n'entendront pas le chauffard, parce que ce n'est pas un appel qui leur est destiné, la trompette de Dieu. Maintenant, souvenez-vous, au début je vous ai dit de garder un texte en mémoire, vous vous souvenez duquel? Nul ne sait ni le jour ni l'heure. Alors, le peuple chrétien a été pendant 2000 ans coupé de ses racines juives parce que nos racines sont juives. Voilà pourquoi chez nous, il y a la menorah, la mezouza, les talites et tout ça. Et eux, ils ont été coupés. Et à cause de cela, eh bien, ils ne sont plus à même de comprendre les choses. En disant « Nul ne sait ni le jour ni l'heure », Jésus indiquait très clairement quelque chose. Jésus faisait comprendre à ses auditeurs juifs « Faites attention, je reviendrai un jour de la fête des tabernacles. Pourquoi ». Pourquoi? Pourquoi est-ce que j'ose dire une chose comme ça? Pourquoi? Eh bien, je fais une investigation. Comme les prophètes, si les prophètes avaient le droit de faire des investigations, je pense que moi aussi j'ai le droit de faire des investigations. C'est pas de l'orgueil, c'est... Ça coule de source, c'est dans ma nature. Je ne peux pas lire la Bible en me disant « Je ne comprends rien, mais ce n'est pas grave, la foi du charbonnier me suffit. » Non. Eh bien, pourquoi je peux dire ça? Parce que la fête des trompettes était la seule fête parmi les 7 fêtes, la seule fête de l'Éternel dont on ne pouvait absolument pas connaître à l'avance ni le jour ni l'heure. Toutes les autres fêtes commencer au milieu d'un mois ou au commencement d'un mois. La fête des trompettes était la seule fête qui commençait le premier jour d'un mois. Maintenant, il faut savoir que les Juifs n'avaient pas un calendrier comme le nôtre. Ils avaient le calendrier lunaire. C'est-à-dire que chaque nouveau mois commençait immédiatement après la nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est l'opposé de la pleine lune. Là, ce soir, c'est la pleine lune. 12 fois par an, la lune devient toute noire. On dirait qu'elle a disparu. Vous savez, les Burkinabés, à ce moment-là, ils tapent des casseroles parce qu'ils croient que c'est un chat qui mange la lune. Vous voyez, ils sont encore plus loin que nous des croyances juives. Et puis, elle réapparaît sous la forme d'un fin croissant. Vous avez tous vu ça. Par exemple, la nouvelle lune, ce mois-ci, là, janvier, ça sera le 29 janvier à 15h15. Vous voyez que c'est précis. Où c'est que j'ai trouvé ça? Ben dans un almanach. Dans le messager boiteux suisse que j'ai acheté à la place de la Palue la dernière fois que je suis venu en Suisse. J'ai dit, ah, mais ça, ma grand-mère, elle l'avait. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ça m'intrigue. Je l'ai acheté. J'ai trouvé ça. Donc, pour les Juifs, ça sera le début d'un nouveau mois, le 29 janvier à 15h15. En février, ça sera le 28, par contre, à 1h31. Vous voyez? Le jour et l'heure. En mars, ça sera le 29 à 12h15. Le jour et l'heure, etc., etc. Vous voyez, c'est jamais pareil. On ne peut pas savoir. En tout cas, eux ne pouvaient pas savoir. Ils n'avaient pas les instruments pour pouvoir calculer ces choses-là comme nous les avons. Et à l'époque de Jésus, donc, personne ne pouvait savoir ni quel jour, ni à quelle heure commençait le nouveau mois. Aujourd'hui, on a des calendriers précis. On a le messager boiteux en Suisse. Vous avez l'almanach, comment il s'appelle, Vermont, que quelqu'un m'a offert, là. Je crois que c'est René qui m'a offert cette année, ça. Non, c'est qui? C'est Christian, c'est toi. Pauvre Christian, je t'oublie. Tous les cadeaux que tu fais, c'est méchant, hein. Mais je t'aime. J'en sois tellement, mon Dieu. Mais continuez, j'aime bien. Du temps de Jésus, c'était pas comme ça. Il n'y avait pas le messager boiteux, il n'y avait pas Vermont non plus. Les Juifs devaient observer les phases de la lune parce qu'il fallait pouvoir calculer précisément les dates des fêtes de l'Éternel. S'il avait dit c'est le 14e jour du deuxième mois, il ne fallait pas que ça soit le 15e ou le 16e. Il fallait que ça soit. Et il fallait donc commencer juste. Donc les Juifs à l'époque de Jésus ne savaient jamais si la fête des trompettes allait commencer le 30 du mois d'Elul ou le 1er du mois de Tisri. Ils ne savaient pas. Elles pouvaient commencer l'un ou l'autre de ces deux jours. Nul ne savait ni le jour ni l'heure. Ils ne savaient pas non plus à quelle heure ça allait commencer, parce que c'est chaque fois différent. De nos jours, cette fête, elle dure 2 jours. Les Juifs sont très intelligents. Et comme ils sont répandus sur la terre entière, pour être sûrs de tous fêter ensemble, ils fêtent ça sur 2 jours. Comme ça, ça marche. C'est bien, non? C'est très bien. Dès que le jour et l'heure de la fête était proclamé à l'époque de Jésus, on entendait le chauffard. C'est-à-dire qu'à Jérusalem, il y avait un homme chargé de sonner du chauffard très fort. Et puis ensuite, ça se répandait dans les campagnes, de synagogue en synagogue, le chauffard sonnait partout, et puis partout, et tout le monde savait que voilà, c'était le moment. Et alors le peuple, c'était une sainte convocation, le peuple se rendait au temple, ils arrêtaient tout. Et tout ce qu'ils faisaient, ils arrêtaient tout. Et dans les synagogues, ils allaient prier, ils allaient célébrer le Seigneur. La précision de cette date, elle allait aussi donner l'exacte date des autres fêtes. Et nous ne pouvons pas toujours savoir, encore aujourd'hui, l'année. Nous ne pouvons toujours pas savoir le jour et l'heure, puisque nous ne savons pas l'année. Parce que chaque année, c'est différent. Mais, à mon avis, on devrait pouvoir s'attendre à ce que l'enlèvement de l'épouse arrive à la fête des trompettes, c'est-à-dire au nouvel an juif. 1 Corinthiens 15, 52, c'est Paul qui répète, Paul parle de nouveau de trompettes. 1 Corinthiens 15, 50. 1 Corinthiens 15, 52. Verset 51. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Elle sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Encore la trompette. Est-ce que vous croyez que c'est gratuit? Et puis, 7 ans après, après l'enlèvement de l'épouse, ce sera le Yom Kippour, le grand pardon, Jésus reviendra, tout œil le verra, tout genou fléchira devant lui, nous dit la Bible. On va lire ce qu'en dit Zacharie 12, j'ai marqué 12-0, ça m'étonne. Zacharie 12, ça doit être 6, je sais pas. Voilà, c'est ça. Alors, c'est 10. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Ils porteront son deuil comme on porte le deuil d'un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui, aussi amèrement que sur un premier-né. Et ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem. Quand il le reconnaîtra, ce sera le grand pardon. Et Jésus va commencer à régner pendant 1000 ans. Ce sera le jour du Yom Kippour. Le 10e jour du 7e mois, les Juifs se repentiront. Et puis, il y aura la dernière fête, la 7e. C'est la fête des tabernacles. Regardons ce que Zacharie toujours dit. Zacharie 14, versets 1 à 7. Voici qu'un jour arrive pour l'Éternel. Tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je regrouperai toutes les nations à Jérusalem pour le combat. La ville sera prise, les maisons seront mises à sac et les femmes violées. La moitié de la ville partira en déportation, mais le restant du peuple ne sera pas retranché de la ville. L'Éternel sortira et combattra ses nations comme au jour où il combat au jour de la bataille. Ses pieds se placeront ce jour-là sur le mont des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. Le mont des Oliviers se fendra par le milieu vers l'est et vers l'ouest, et une très grande vallée, une moitié de la montagne reculera vers le nord et l'autre moitié vers le sud. Vous fuirez alors dans les vallées de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Arzal. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Ozias, roi de Juda. L'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous ses saints seront avec toi. Alors en ce jour-là, il n'y aura pas de lumière, il n'y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière poindra. Alors en ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers l'autre mer. Il en sera ainsi. Je continue, ça y en a beaucoup. Je vais au verset 16 pour terminer. Alors tous ceux qui subsisteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, pour célébrer la fête des huttes. Il y aura des familles de la terre qui ne monteront pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées. La pluie ne tombera pas sur elle. Les nations reconnaîtront enfin l'Éternel. Il y en a quelques-unes qui ne reconnaîtront pas, mais c'est là que vient le jugement et que ça sera terminé, le trône blanc et toutes ces choses. Mais il y aura la fête des tabernacles. Alors vous avez vu ces fêtes, les 4 premières, qui sont prophétiquement accomplies dans l'histoire de Jésus et de son épouse, et les 3 qui viennent et qui s'inscrivent dans la logique de ce qu'on peut comprendre, de ce que la prophétie dit au sujet de l'enlèvement de l'épouse, du retour de Jésus sur la terre, de la repentance du peuple juif et des nations qui montent au tabernacle de l'Éternel pour le louer et l'adorer. Moi, ça me fait frissonner. Je ne sais pas à vous ce que ça vous fait, mais moi, ça me fait frissonner. Alors maintenant, soyez sincères. Ne vous dites pas, on va attendre le nouvel an juif, on va se préparer, puis on va vivre pur, puis le lendemain, on va pouvoir nous faire toutes les cochonneries qu'on veut, en attendant le nouvel an de l'année d'après. Si vous pensez comme ça, c'est que vous êtes tordu dans votre cœur. C'est que vous avez un cœur de serpent, vous avez un cœur mauvais. Soyez toujours prêts. Amen. Vous ne savez ni le jour ni l'heure. Soyez toujours prêts. Jésus peut revenir n'importe quand. Juste, c'était une idée. Juste, c'était une étude. Juste, je pense que ça réjouit. Moi, ça me réjouit. Puis si je me trompe, tant pis. ce qui est beau, je trouve, c'est de voir comment les choses se sont passées là pour ces quatre premières fêtes. On peut faire des investigations, comme les prophètes d'autrefois se sont permis de les faire, afin de se réjouir nous aussi. Et s'il nous est révélé que ce n'est pas pour nous, ben tant pis. Hein, ils ont dit, c'est pas pour vous, c'est pour ceux qui viendront après. Ben tant pis. Nous réjouissons autour de la parole de Dieu. Je vois là une perfection. Je vois là quelque chose de profond. Je vois là quelque chose qui me réjouit. Je vais vous dire, je ne sais même pas quand c'est le nouvel an juif. J'ai demandé un peu hier soir à Simone, c'est en septembre. Alors si c'est en septembre cette année, ça nous donne le 22 septembre à 13h45. Mais bon, c'est peut-être pas cette année. Donc, soyons toujours prêts. Vivons comme si Jésus revenait là maintenant. Et puis, travaillons comme s'il revenait dans 50 ans. C'est-à-dire, ne baissons pas les bras. Travaillons à notre salut avec crainte et tremblement. Entreprenons des choses. Faisons des affaires. Montons des nouvelles églises. Là, je pars demain pour aller au Burkina. On va faire l'inauguration de l'église là-bas avec Nicolas. Ensuite, on va aller, peut-être, je ne sais pas si on aura le temps, à Thion pour faire l'autre inauguration de l'autre église qu'on a montée là-bas aussi. Et puis encore une troisième. Je ne sais même pas le nom. Voilà, donc continuons et qu'il y ait encore des gens sauvés, qu'il y ait encore des gens guéris, et on travaille à court, à moyen et à long terme. Ne nous occupons pas de savoir quand c'est que Jésus revient pour pouvoir faire notre travail. On le fait comme s'il revient dans 50 ans. Il y a tellement de choses à faire, la moisson est tellement grande. Mais quant à notre sainteté, alors faisons comme s'il revient dans 30 secondes. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alain, tu viens terminer pour nous. Amen.
Bonsoir. Oh là. Je voulais dire à Michael, Mathéouche, Élise et Lucas qui vont avoir un petit cousin ou une petite cousine au mois de septembre.